comme c'est facile d'aller à Rock et c'est, ça donne toujours envie d'aller à Rock tous les 15 jours, on a le plaisir de retrouver tous les 15 jours, on se dit qu'on on a la chance d'avoir à Rock grâce à toi Marie Lostis qui vient de nous rejoindre pour après un bel été. Est-ce qu'il a été bien cet été?
Ben oui, il a été très bien.
Il a été très bien, ben, c'est parfait pour évoquer comme tous les 15 jours mémoire de festival, un rendez-vous qu'on aime beaucoup. On a choisi, enfin tu as choisi d'évoquer, parce que c'est toi qui, quand même, hein, qui donne les sujets, c'est important à dire, ses premières expositions à l'époque de, bah, du début de Hard Rock. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de musique et régulièrement et avec beaucoup de justesse et de raison, mais c'est aussi quand même des sacrés artistes qui, depuis plus de 40 ans, eh bien, sont venus arpenter les rues de Saint-Brieuc.
Mais oui, c'est intéressant de le rappeler que Hard Rock, c'est d'abord et avant tout des concerts, des musiques. Mais le concept d'Hard Rock, comme son nom l'indique, c'est d'aller voir ailleurs d'autres écritures, donc notamment dans le théâtre, dans la danse, théâtre de rue et dans le monde des arts plastiques. Et dès 1983, on a fait des expositions.
Il y a une affinité de Jean-Michel et toi déjà à l'époque sur une attirance pour les arts plastiques en général. Je me suis un peu posé cette question-là plusieurs fois d'ailleurs.
Oui, nous à titre personnel, on fréquentait beaucoup les musées, les galeries. Pas tant en Bretagne, qui était brillant de désert. Il y avait quelques galeries, mais bon, pas mal à Paris, pas mal au fur et à mesure de nos déplacements. Mais oui, on était des amateurs, c'est-à-dire amateurs au sens esthète, absolument pas professionnels. Tiens, je fais une petite parenthèse de rappeler que justement, monter une exposition, c'est une profession. Oui. J'en ai eu un très bel exemple hier en allant voir l'expo consacrée aux joints français au musée.
Qui est très bien.
Je vous recommande. Ouais. Pas tant, enfin, sur le contenu, bien évidemment, mais il y a une scénographie ou une muséographie, on dit plus précisément, qui est vraiment exceptionnelle.
Et qui vaut
vraiment le coup d'œil. Et qui est un très bel exemple de qu'est-ce que c'est que la muséographie, qu'est-ce que c'est que mettre en scène les arts plastiques. C'est pas le tout d'être esthète comme Jean-Michel et moi on pouvait l'être. C'est autre chose d'avoir envie de partager avec le plus grand nombre, donc avec le public. Et pourquoi je fais cette parenthèse? C'est parce qu'on s'est fait aider quand même. C'est-à-dire que nous, les choix artistiques, c'était Jean-Michel et moi qui les faisions. Mais pour tout ce qui était la mise en scène et la monstration des œuvres, on s'est fait aider par des connaisseurs, mais ça pouvait très bien être des peintres de Saint-Brieuc. D'ailleurs, on a commencé avec une bande de peintres. Je me rappelle notamment de Yves Bazat, qui était un excellent copain, qui nous a mis en scène notre première exposition.
Ouais.
Et pour cause, il y avait besoin d'autant d'une mise en scène qu'on n'était pas du tout dans une galerie ou un musée. Le musée n'était pas encore ouvert, d'ailleurs, à Saint-Brieuc, en 1983. Le pavillon temporaire.
J'ai appris tout récemment, d'ailleurs, que c'était l'ancienne gendarmerie que le musée de Saint-Brieuc. Oui. Ça, je ne le savais pas, figure-toi. J'ai appris ça il y a deux jours.
Ah oui, si on le savait. Donc le musée permanent était déjà ouvert, mais le musée exposition temporaire, celui qu'on aime utiliser, n'était pas encore ouvert, en 1983. Et quand bien même on n'aurait pas du tout osé aller frapper à cette porte d'une institution. Et donc le quartier du Chais était en chantier, complètement désaffecté. Et donc nous on a repéré un espace qui nous convenait bien parce qu'il était fermé. On a eu les autorisations et Yves Bazat, dont je parlais tout à l'heure, nous a aidé à mettre en scène notre première exposition qui était essentiellement faite de photos photos de concerts avec des amis, des photographes de Rennes et d'ailleurs. Je pense à Corinne Berthelot qui n'a rien à voir avec Rennes, que je sache, qui avait suivi toute une tournée de Jacques Higelin, donc on a exposé Gino Macarinelli qui était un célèbre photographe qui nous a amené des super photos, notamment de Bowie. Philippe Bonis, qui était aussi un photographe de Rennes, qui avait collaboré avec Caco pour des premières affiches d'Hard Rock. Et surtout, il y avait Pierre Fablet, qui est musicien par ailleurs, mais qui est aussi plasticien et qui s'éclatait dans le copy art.
D'accord.
Un exemple de copy art, ben, c'est le programme d'Hard Rock 1983. C'est du copy art qui avait été réalisé par Pierre Fablet. Le copy art, c'est tout simplement des plasticiens qui se sont saisis d'un nouveau médium, qui était le photocopieur.
Ouais.
Ça a émergé en France.
À l'époque, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas tout ça, on rappelle. Et que ce n'était pas si simple, après tout, que de se procurer, ne serait-ce qu'un photocopieur, déjà.
Ah oui, mais les plasticiens un peu curieux et un peu à la recherche comme ça de nouveaux médiums. Dans les années 70, déjà, ça a émergé aux États-Unis, en France, plutôt dans les années 80. Et nous, on a eu la chance de rencontrer ce Pierre Fablet. Et donc, non seulement il nous a conçu notre programme, que je vous recommande de le retrouver, parce qu'il est vraiment magnifique, très daté, 1983. Et donc, on a exposé plusieurs de ses œuvres qu'il avait réalisées avec une photocopie, dont ce sont essentiellement des montages. Allez voir sur Internet, vous verrez ce que c'est que le copy art, parce que ce sont aussi des installations.
Et allez relire le livre, évidemment, des 40 ans, puisqu'il y en a forcément dedans. Ouais. Il y a quand même deux questions. La première, c'est quand tu parles de mettre en scène, finalement, ces affiches, c'était quoi? C'était l'éclairage? C'était une manière de les montrer?
Il y a une question d'éclairage, bien évidemment. Mais il y a surtout quand la deuxième exposition qu'on a faite, dans le même lieu, enfin juste en face, enfin peu importe, c'est le même type d'espace, là on a exposé du mobilier.
D'accord.
Ce qui était très novateur à l'époque. Maintenant, c'est commun de dire que le design, etc., fait partie des expressions artistiques. Je peux vous assurer qu'à l'époque, enfin, il y avait des précédents, je pense notamment au mouvement Bauhaus. Enfin, il y a d'autres courants artistiques qui ont pris en compte le design, que ce soit le design de meubles, comment on appelle ça, l'art de la table, etc. Mais dans les années 80, en France, c'était assez nouveau et surtout une reconnaissance officielle avec Jacques Lang au ministère de la Culture, qui a désigné ces designers, appelons-les comme ça, plasticiens-designers, comme des artistes à part entière.
Oui, c'est vrai qu'on avait, une vision presque vieille, finalement. Bon, on s'occupait pas trop, à part le Formica, et même, on se moquait un peu du Formica, qui, si vous ne connaissez pas, parmi les plus jeunes, c'était... Moi aussi, vous avez des tableaux Formica chez vos grands-mères, je suis
allez
sûr.
Allez voir vos grands-mères, oui.
Mais c'est vrai que non,
mais
oui,
c'est surtout
que
ça n'était pas
ouais.
considéré comme une expression artistique. C'est ça la différence, c'était de l'artisanat. Grande différence entre artisanat et expression artistique. Et donc, des gens comme Philippe Starck fabriquaient du mobilier, mais complètement invraisemblable. Il faisait un tabouret à bascule.
Ouais.
Il faisait une lampe qui tenait toute seule sur un mur. Il faisait des choses comme ça, complètement aberrantes, on va dire, qui allait chercher un peu dans sa folie. Et on a rencontré une compagnie de Lyon qui s'appelait la compagnie Totem, alors eux, complètement délirants. Ils nous ont proposé une table avec quatre pieds différents, réalisée par quatre plasticiens différents. Tiens, j'ai envie de vous lire le texte qu'ils nous avaient envoyé, comme une sorte d'interview un petit peu, pour définir ce qu'ils avaient fait. Nous avons travaillé à quatre sur cette table, un pied chacun, tous quatre réunis par une structure métallique surmontée d'un plateau en pierre taillée. La suite donc, nous apprend que pour faire son pied, Jacques avait pompé sur l'un des trois autres, que Vincent en avait eu la vision au fond d'une bouteille, et que c'était les seigneurs, dans son immense charité, qui en avaient soufflé les contours à Fred, qui paraissait vraiment très fatigué ce soir-là. Seule Clara lança sans hésiter que son pied était sorti de sa petite tête. Vous voyez tout l'humour qui entourait ce mouvement et ses plasticiens.
Sens de la fête aussi, visiblement, un petit peu.
On va se gêner, on est dans le monde du rock quand même. Et donc nous, on a eu beaucoup de plaisir à exposer ces gens-là, et donc il y avait besoin bien évidemment d'un environnement. C'est pas le tout d'avoir une table complètement invraisemblable, un tabouret, une lampe, enfin je vous cite quelques exemples. On a quand même obtenu aussi des toiles de François Boiron, qui était un des piliers de la figuration libre. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et bien là, on se fait aider par quelqu'un qui a cet œil là de mise en scène, qui nous avait fait des tas de sable et tout, enfin, pour mettre en scène cette exposition, donc à la place du Chêne, en 1984.
Donc, place du Chêne, en plus, donc c'était en plein centre-ville, là encore, c'était déjà finalement posé un jalon important. On sait très bien qu'à Rock, c'est le festival de centre-ville par excellence. C'était déjà posé finalement des actes forts et des fondations, quoi.
Ah, bah oui, certes, on va là où sont les gens, on voulait les interpeller, on voulait les choquer, oui, ils y tombent pas aussi. Enfin, Dieu sait si le copy art de Pierre Fablet en a choqué plus d'un, mais ce n'est pas de l'art. Mais même, je me souviens, le tabouret de Philippe Starck a en fait rire certains, parce que c'est tant mieux, il a beaucoup d'humour, ce monsieur. Mais il y avait cette question de qu'est-ce que l'art au centre de ces propositions-là. Et ça nous intéressait beaucoup, tout ce qu'on peut secouer. Mais nous, on était très, j'allais dire brigands, non, mais on a eu donc ces espaces. Il faut savoir que c'est des espaces. On n'avait pas de gardien, on n'avait rien à l'époque. Jean-Michel et moi, on s'est relayés la nuit dans un stack de couchage à dormir dans les expositions.
Vous vous rendez compte que du Philippe Starck à Saint-Brieuc aussi, s'il y en avait un qui avait volé le truc à l'époque, il serait millionnaire aujourd'hui.
Ah, mais nous, on passait nos nuits. Enfin, on se relayait tous les deux ou trois avec d'autres copains pour garder les expositions. On n'avait pas un sou à l'époque, il n'était pas question de se payer des gardiens. Mais on avait quand même réussi à convaincre des collectionneurs et une unité qui était. Enfin, une unité, non, non. Un espace qui était vraiment génial à Paris. Je parle au passé, mais ça se trouve, ça existe toujours, qui s'appelait l'espace de valorisation des industries artistiques.
D'accord.
C'est pareil, ça a fait grincer des dents quand Jacques Lang a inauguré cet espace-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Enfin, il faut essayer de vous remettre dans les années 80.
On parlait d'extrême droite.
Désigner un lit, un fauteuil, enfin, enfin tout ça.
On parlait d'extrême droite, Marie, excuse-moi, je peux pas ne pas rebondir là-dessus, parce que les fameuses colonnes de Buren, bon, on en pense qu'on veut, mais il faut voir à l'époque ce que la presse de droite et d'extrême droite a pu dire, c'était vraiment du vomi, on peut pas dire autrement, en termes de journalistes et puis de polémistes et de tout ce que vous voulez en histes, mais il faut voir ce qui s'est pris, Jacques Lang, à l'époque, hein, alors qu'aujourd'hui ça paraît évident, ça attire les touristes, etc. Mettre des sous dans l'art, c'était l'argent gaspillé, hein, vous rendez compte.
Mais même à Saint-Brieuc, on s'en est pris aussi quelques-unes, je peux vous assurer.
Sans Daniel Buren.
Et parfois de responsables politiques, etc. On s'est pris quelques-unes en faisant ce genre de propositions, mais c'était pas pour nous déplaire. Enfin, on recherchait pas ça à tout prix, au contraire. Mais le consensus ne nous a absolument jamais intéressés, on l'a déjà dit.
Il y a quelque chose aussi quand même qui me vient à l'esprit, Marie, quand on évoque ça ensemble, je veux dire. Il y a quand même une tradition aussi en Bretagne, quand même, d'artistes, je pense à ces... pas le nom exact, il y en a à Rennes exposé l'affichiste, tu sais, les gens qui lacéraient des affiches, etc. Il y avait des artistes qui...
Raymond Hens,
ça va également.
Originaire de Saint-Brieuc, oui.
Exactement, donc finalement vous êtes inscrit aussi dans cette espèce de tradition un peu, comme tu dis, qui a bien dérangé quand même.
Bah complètement, mais c'est marrant qu'on parle de Raymond Hens, parce qu'on avait un ami qui est devenu directeur de musée d'ailleurs, qui nous avait proposé de faire une expo de Raymond Hens à l'époque, dans les années 80, et l'équipe municipale ne nous a pas suivis à l'époque, parce qu'ils pigeaient pas, enfin ils n'avaient pas compris qui était Raymond Hens et l'importance que ce monsieur avait dans le monde de l'art. Et il est exposé à Beaubourg, hein, au musée d'art moderne, vous trouvez les œuvres de Raymond Hens, qui est quelqu'un qui est né rue de Guédic à Saint-Brieuc. Enfin, bon.
L'école des beaux-arts porte son nom, et c'est très bien d'ailleurs.
Oui, voilà, on a réparé, j'ai envie de dire, l'oubli qui avait été fait, et c'est tant mieux, réjouissons-nous.
Petite parenthèse d'ailleurs, parce que ça me fait furieusement penser, là encore, le temps fait son œuvre, fort heureusement de temps en temps. Il y a quand même tout un week-end d'hommage à Patrick Devers, là, qui est organisé par les bibliothèques et les médiathèques de Saint-Brieuc. Là encore, il a fallu du temps pour que faire admettre que quelqu'un qui a eu la fin de vie que l'on connaît, soit on lui rend hommage, et je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans tout ce qu'on évoque ce soir avec toi, Marie.
Toujours dans l'idée d'aller à la rencontre du public, c'était vraiment notre obsession. En 1984, on a investi les vitrines des commerçants.
Oui.
Mais là, pour le coup, des commerces utilisés, enfin exploités, et on a ciblé la rue Saint-Guénaud, qui déjà à l'époque était très dynamique, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et il a fallu vraiment, Jean-Michel et moi, qu'on prenne notre bâton de persuasion pour aller faire comprendre aux commerçants qui voulaient bien jouer le jeu qu'un temps donné, ça durait une semaine, ils devaient renoncer à leur vitrine. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'accrocher des tableaux comme ça, ou d'accrocher, je ne sais pas moi, des sous-vêtements à des meubles, vous voyez ce que je veux dire. Donc convaincre un commerçant qu'il doit renoncer à sa vitrine pendant une semaine, c'était une gageure. Certains ont joué le jeu, et je les remercie encore, mais parce que soudain, par exemple, dans une vitrine, il y a ce groupe qui s'appelait Présence Panchounette, qui, je crois me souvenir, vient aussi de Rhône-Alpes, ont déversé des kilos de pommes de terre à l'intérieur de la vitrine. Vous voyez, donc c'était des installations.
C'était performance en plus, pour le coup.
Oui, beaucoup de performance. Je me rappelle d'un meuble tout blanc, avec du plâtre, qui avait beaucoup interpellé les passants qui ne comprenaient pas vraiment qu'on puisse exposer ça. Je suis en train de chercher l'auteur de ce meuble, je ne me souviens plus, mais ça va me revenir. Et cette expo, on l'avait appelée Lèche-Vitrine.
C'est pas mal, forcément.
Je dois dire aussi qu'on s'était fait aider par Daniel Hivernio, qui à l'époque était conseiller art plastique à la DRAC. Et donc on était quand même toujours entouré comme ça. Nous, on avait le concept, on avait l'idée, et on était quand même toujours entouré de gens qui savaient faire. Et ça nous a valu une rue, mais absolument sensationnelle. Je sais plus, il y avait sous cette vitrine qui avait joué le jeu, et c'était sensationnel. On avait à la fois de la figuration libre, on avait des gens qui sont devenus célèbres, comme Bochet et Bourgeois, comme Garouste et Bonetti, donc Présence Panchounette, je viens de le dire, Robert Malaval.
Ouais.
On avait comme ça des grands noms, ou des gens qui étaient déjà des grands noms à l'époque, et qui ont fait leur carrière qu'on sait après. Regardez sur internet, vous verrez qu'à Saint-Brieuc, il y a vraiment eu des grands, grands noms d'exposés à l'époque. Pas forcément connus de la population locale, mais après tout, peu importe, il y a un début à tout.
Exactement.
On s'en est encore plus aperçu, c'était en quelle année ? C'est en 1987. Bah tiens, je fais un grand bond sur la difficulté qu'on a eue, enfin la difficulté, le plaisir qu'on a eu aussi à chambouler les choses, à secouer. Mais figurez-vous qu'en 1987, il nous a pris l'idée d'exposer Andy Warhol.
Ah oui, quand même.
Voilà, j'aime beaucoup ta réaction, parce que Andy Warhol en 1987, eh ben non. Ça n'a pas été le succès escompté. Pourtant, on avait une gigantesque exposition, là, pour le coup, au musée. On avait été aidé, d'ailleurs, par Pascal Aumasson, le conservateur du musée de l'époque. Aidé parce qu'il a fallu trouver les œuvres d'Andy Warhol. Lui, il a sollicité les FRAC. Pour la petite histoire, ce sont des fonds régionaux d'art contemporain.
C'est ça.
Qui, comme son nom l'indique, ont des fonds. Et lui, Pascal Masson, savait à quel endroit il y avait des toiles d'Andy Warhol. On a sollicité Beaubourg, on a sollicité une galerie à Paris. Bon, bref, Jean-Michel et moi et Pascal Masson, on a comme ça collecté les œuvres. Il a fallu avoir un garant. Et donc, le garant, c'était le conservateur du musée, parce que n'importe qui ne va pas comme ça trimballer des œuvres de Warhol.
Oui. Ça vaut quelques millions quand même.
Et on avait toutes les grandes œuvres de Warhol, les car crash, les portraits de Mao, les flowers, les Campbell soup, enfin, toutes ces œuvres célèbres ont été présentées à Saint-Brieuc, toutes les œuvres originales.
Et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de succès.
Mais il y a eu du monde, on ne va pas se raconter d'histoire, mais ça n'a pas été l'événement auquel nous, on aurait pu s'attendre. D'autant qu'en plus, c'était l'année de la mort de
Warhol. Oui, c'est ce que j'allais dire, je ne voulais pas dire de bêtises. Mais
et avec du recul, quelquefois, quand on en reparle avec Jean-Michel, on se dit c'est quand même incroyable qu'Andy Warhol ait été exposé à Saint-Brieuc et que ça n'avait pas... on va pas se raconter l'histoire, ça n'a pas créé événement. Il y avait les connaisseurs qui bien sûr sont précipités parce qu'ils n'en revenaient pas, ils disaient attends c'est pas possible, des œuvres de Warhol à Saint-Brieuc. Et ça n'a pas été, on va dire, l'événement populaire qu'on a pu connaître quand on a investi la galerie, enfin la galerie, c'était pas une galerie mais le Monoprix, enfin, etc. Peut-être qu'on a pêché par la communication, j'en sais rien, on était encore à nos débuts mais bon.
En tout cas, Andy Warhol a bien été exposé grâce à Rock à Saint-Brieuc et ça fout le frisson avec qu'à y penser. On se met quelques petites notes de Finlay et puis on se retrouve juste après pour continuer à évoquer jusqu'à 19h en compagnie de Marie ses mémoires de festival et ses mémoires plastiques ce soir. Elle est un peu américaine à l'image de ce qu'on vient évoquer. On vient évoquer quand même Andy Warhol avec Marie. Et j'avoue que tu m'apprends que Andy Warhol avait été exposé à Saint-Brieuc.
Incroyable, tu étais né à l'époque pourtant.
Oui, c'est ça, mais peut-être que j'étais pas, je sais pas, j'étais peut-être pas par là non plus. Mais quand même, là, puisqu'on évoque ces arts plastiques et ses premières expositions à Rock, il y a quand même quelque chose qui a perduré avec cette. Bah, j'ai pas envie de dire tradition, mais en tout cas avec cette fondation, ce fondement que vous avez imposé à l'époque, c'est que les affiches ont toujours été réalisées par la suite par des grands artistes, pour le coup, et c'est toujours le cas d'ailleurs.
Ah oui, c'est toujours le cas, on s'y est vraiment attaché, c'est important, les arts visuels, c'est aussi important que la musique, que le théâtre, que toute autre chose, oui. Pas toute autre expression artistique, oui.
Exactement. Donc après Andy Warhol en 87, alors qu'il n'a pas connu le succès escompté, mais bon, il y a quand même du monde, hein, fort heureusement d'ailleurs, qui peut-être s'en souviennent aujourd'hui, se disent, ah tiens, on a été au musée voir des œuvres d'Andy Warhol, il y a eu aussi quelques quelques noms assez, assez importants dans le monde de l'art qui ont succédé à ce grand monsieur.
Ben oui, bien sûr. Et la même année, on avait d'autres grands messieurs et dames qui étaient exposés avec une expo dont on n'est pas à l'origine, qui s'appelait les Rita Mitsuko Illustrés.
D'accord.
Et ben, c'est tout simplement des gens comme Muso, Combas, Di Rosa, François Boiron, qui ont été sollicités. J'arrive plus à me souvenir qui était à l'origine de cette expo. Et donc nous, on l'a exposé à Saint-Brieuc. Ce sont des gens qui s'inscrivent aussi dans le mouvement de la figuration libre. Pour mémoire, il y a une célèbre galerie du côté de Landerneau, on peut la citer, c'est la Fondation Leclerc, qui a fait une magnifique exposition sur le mouvement de la figuration libre. Moi, j'avoue que je connaissais ce mouvement, mais franco-français, j'en étais convaincu. Et en fait, pas du tout. Ça a été un mouvement international qui s'appelait Graffiti aux USA, qui s'appelait New Wild en Allemagne, et qui s'appelait, et qui vivait aussi, enfin qui existait aussi en URSS, qui s'appelait Les Nouveaux Artistes.
D'accord.
C'est-à-dire que ça a été un mouvement très puissant, très important, très politique, très social, et qui dérangeait, et comme tous les mouvements artistiques forts, qui a vraiment interpellé la société à l'époque.
Qui était aussi, parce que je pense à Di Rosa et ce qu'ils appelaient l'art modeste, c'était aussi un retour de l'art un peu populaire au sens très noble du terme, c'est-à-dire que on avait, enfin voilà, les années 80 étaient aussi, il y avait un côté de l'artiste piédestal, etc., etc. Là, d'un coup, on se retrouve avec des gens qui remettaient quand même ces enjeux artistiques au cœur de la société.
Exactement. On était dans les notions d'art brut aussi,
voilà.
Enfin, comme tu dis, art populaire. Et c'est en ça que ça nous intéressait aussi, bien sûr, mais avec toujours cette exigence. Bon, je sais bien que c'est bateau, le terme exigence, et j'arrive pas à le définir. Qu'est-ce que c'est que l'exigence artistique? Ce serait intéressant, tiens, sortez vos copies, vous avez 4 heures, qu'est-ce que l'exigence? Mais ça nous a quand même toujours animés. Ça nous a pas empêché d'exposer des artistes locaux. Petit flashback, c'était en 1986, 4 jeunes, peintres, sculpteurs, etc., qui avaient des noms à péter de rire. Brett Sinclair, Danny Wild, Kojak, Betty Scoop. Ils se prenaient très au sérieux, comme vous voyez leur pseudonyme. Et ils sont venus nous voir et on a vraiment craqué sur ce qu'ils faisaient. Et bien eux aussi, on les a exposés, Place Duchet, toujours dans notre chantier, en 1986. Donc certes, on a fait venir des grands noms, etc., mondialement connus, mais on s'est aussi intéressé à ce qui se passait ici, à Saint-Brieuc.
Ça fait
Bretagne,
partie d'un rock encore.
En Bretagne, plus largement, j'ai commencé tout à l'heure avec les photographes et le copy art réalisé par des Rennais. Donc on a quand même été aussi attentifs à ce qui se passait autour de nous.
Je dis ça fait partie aussi de l'ADN à rock, puisqu'il y a toujours, et fort heureusement, des artistes locaux qui font partie de l'affiche musicale et aussi artistique. Ça aussi, c'était depuis le départ, finalement.
C'est important, mais je vais recommencer avec ma notion d'exigence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que c'est la moindre des choses, quand on est comme ça responsable artistique, de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, mais avec le même regard. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes du coin que vous allez être exposé ou présenté en concert.
Ouais.
C'est parce que ce que vous faites est à la hauteur de ce qui est présenté par ailleurs pendant le festival. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, c'est essentiel.
Et c'est d'autant plus gratifiant pour l'artiste concerné. Et c'est important. Et je crois que c'est un peu ça aussi, l'exigence artistique.
Exactement. Vous parlez à un convaincu, madame, parce que là, je m'adresse aux nombreux musiciens. On aime l'autoprod, on aime les musiciens locaux, mais c'est pas parce que vous êtes un musicien local que vous allez passer. Même, peut-être, c'est pas vous de faire un cadeau que de vous faire passer un disque à vous, qui n'est pas encore tout à fait abouti derrière quelque chose, justement, de très produit. Donc, voilà.
Il faut prendre le temps.
Il faut prendre le temps. Et l'exigence, pour reprendre la terminologie. Ça se poursuit, je le disais, à travers ces affiches. Hein. Il y en a beaucoup. Je pensais, on a évoqué Mystique d'ores et déjà à cette antenne. Il y en a eu plein des artistes, elle me vient comme ça en mémoire. Mais aujourd'hui, ça n'a pas disparu. Enfin, je repense à ce qui s'est passé sur les dernières expositions à Rock. Toujours cette notion aussi de, j'ai pas envie de dire avant-garde, mais en tout cas d'art extrêmement contemporain.
Précurseur,
oui. Merci.
Ah
oui, c'est un très bon terme.
Surtout pour. Enfin, je ne veux pas dévaloriser Saint-Brieuc en disant ça, mais surtout pour Saint-Brieuc, c'est-à-dire qu'il est une ville où il n'y a pas de lieu de monstration dans le domaine des arts plastiques, ce que je regrette. Et plus largement dans les Côtes d'Armor, on en manque, je trouve, cruellement. Et donc, c'est d'autant plus important, oui, que Arock s'intéresse à cette expression-là. Après, ça a plus été les arts numériques, bien évidemment, c'est-à-dire Arock suit aussi son temps, et les médias changent dans le domaine des arts plastiques. Et en parallèle de tout ça, pour mémoire, on faisait aussi notre festival international du clip et de la vidéo musicale, qui relève aussi des arts visuels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, il me semble.
On en reparlera.
Et tout ça est pour moi la même, enfin pour nous, la même famille, les arts visuels. Et tout ça est au cœur du festival, bien évidemment. Et il y a énormément de connexions d'ailleurs avec les musiciens, avec la danse, avec le théâtre. Enfin, tout ça, c'est l'art, bien évidemment.
casser les cloisons aussi quand même. Ça c'était important à une époque où c'était pas si simple que ça, où chaque chapelle était une chapelle justement. Et justement là, le fait de remettre tout ça un peu ensemble au cœur du festival, ça aussi c'était assez précurseur pour le coup.
Ouais. En 1988 d'ailleurs, on a foncé sur la vidéo parce qu'on avait flashé sur un Polonais qui de mémoire vit aux États-Unis, qui s'appelle Zbigniew Rybczynski. Qu'on avait découvert grâce au festival de vidéoclips. Il nous envoyait régulièrement des clips. Mais un type qui est devenu un monument, bon, après, dans le domaine, un vidéaste très très connu. Et on lui avait consacré toute une rétrospective de ses montages et de ses vidéos. Si vous retrouvez ça sur YouTube, franchement, attardez-vous, parce que ça n'a pas vieilli d'un poil, je peux vous assurer. Et c'est drôle, c'est très novateur. C'est vraiment, il a une patte très particulière. Et après, donc pour finir les années 80, 1989, là on a eu une expo très radicale qui nous avait été proposée par, enfin un choix radical qui nous a été proposé par la conseillère art plastique de Hadrac. Il s'agit d'une plasticienne qui s'appelle Françoise Cardon et qui avait fait une gigantesque installation sur la façade du petit théâtre qui s'appelait On the Blue Highway. Donc il y avait comme ça un néon bleu qui disait On the Blue, et juste à côté, elle avait créé une sorte de panneau d'autoroute qui disait Highway, donc vous avez compris le message. Et tout ça était terminé par une flèche qui nous indiquait l'intérieur du petit théâtre, donc on était conviés, les spectateurs, à pénétrer dans le petit théâtre. Et à l'intérieur du petit théâtre, on avait 6 barres de cuivre qui partaient des balcons et qui traversaient comme ça toute la salle pour aboutir sur la scène, où là on avait une installation vidéo, plusieurs écrans, 5 ou 6 écrans, sur lesquels étaient projetées les réalisations vidéo de Françoise Cardon. Un choix très radical, très minimaliste, qui a aussi fait couler de l'encre, etc.
Ce qui ça vous plaît, ça.
Encore, voilà, oui. Et qui était affiché, donc, sur la place du marché. Ce qui nous importait beaucoup, c'était cette visibilité, cette interpellation qu'on pouvait avoir par rapport au chaland, par rapport à tout un chacun.
Eh ben c'est bien, et puis ça redonne envie d'aller se replonger dans les archives. On vous rappelle que le livre de Harrock retrace aussi toute cette histoire. Je te propose peut-être de poursuivre cette discussion d'ici 15 jours, parce qu'on s'arrête aux années 80, il s'est encore passé plein de choses derrière.
Ah oui, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que t'en penses?
Pourquoi pas, oui, si vous voulez, on peut continuer dans le domaine des arts visuels, oui.
Eh ben, je trouve que c'est une bonne manière de reprendre nos bonnes habitudes tous les 15 jours. Merci beaucoup Marie d'être venue, très belle quinzaine à toi, et puis c'est toujours un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez écouter, si vous n'avez pas encore de route, cette émission en podcast sur notre site www.radio-active.com. À suivre, des stars de la bande FM qui sont aussi de retour dans les studios de Radioactive. C'est Louis Guirec pour Subtrack, le retour de l'actualité au moins pop rock, mais pas que musicale de ces temps-ci. Et puis après, c'est aussi une forme de star au moins à Saint-Brieuc. C'est Romain et toute sa bande pour Turn Up, où il y aura des sujets sociétaux ce soir, je crois, autour notamment de la communauté LGBTQIA+. Voilà, ça c'est. J'ai encore oublié quelque chose ?
Non, je voulais juste faire un petit quart d'heure de pub, parce qu'on m'a posé la question récemment. Oui, il reste quelques livres encore à vendre sur Harrock. Il suffit de vous connecter sur le site harrock.org et vous pouvez l'acheter en ligne, sur le site du festival.
J'ai même vu une grande enseigne de centre-ville qui en vend aussi, donc voilà, je le glisse aussi, donc c'est bien savoir. Mais allez-y directement, vive le circuit court, t'as bien raison.
Peut-être à la nouvelle librairie chez Bertrand Duaret, qu'il y en a peut-être encore quelques exemplaires.
En tout cas, voilà, c'est à vivre tous les 15 jours sur Radioactive, cette histoire de Harrock.